L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère, avec toujours en cette 9e saison, l'invité. Et le mardi, souvent, c'est science. Notre invité, vous l'avez déjà croisé 2 fois sur notre antenne, par son activité de bénévole dans l'association Bretagne Vivante. Et puis, il est aussi venu nous parler de son métier de taxonomiste à l'IFREMER, taxonomiste qui identifie les espèces. C'est en lien avec le sujet du jour. Le sujet du jour nous emmène sous la surface. Depuis quelques années, quand on parle de sous-continent, les vers de terre ont la vedette et ils font respirer le sol, ils permettent à l'eau de s'y écouler, ils favorisent la vie. Il faut sauver le soldat vers de terre, paraît-il, menacé par des labours trop profonds, des pesticides, la bétonisation. Mais côté mer, existe-t-il aussi des petits faiseurs qui labourent les sols? Je crois bien que oui. On les appelle poliquettes. Notre invité Gavin Droual en est spécialiste. Bonjour Gavin.
Bonjour.
Alors ces poliquettes, c'est une classe, paraît-il, c'est ça? Il faut peut-être expliquer un peu ce qu'est une classe.
Exactement. En fait, on va même commencer un peu plus large. Les poliquettes, c'est des vers, tout simplement. Donc des animaux en forme vermiforme. Et chacun de ces vers, au sein des poliquettes, ont des annelures, des segmentations, un peu comme un collier de perles. Donc ce sont en fait des annélides. Ils font partie du phylum des annélides qui regroupe l'ensemble des vers ayant une segmentation.
Donc comme les vers de terre.
Exact.
Qui sont des annélides.
Exactement.
Aussi.
Okay. Mais il y a une petite différence entre les annélides poliquettes et les vers de terre. Et là, on va parler de petits poils. En fait, la grande différence, c'est que les annélides poliquettes correspondent à tous les vers qui ont une segmentation et sur chaque segment, plusieurs dizaines de soies. À différencier des aquettes, comme les sangsues, qui sont en fait des vers avec des annelures, mais sans soies, et à différencier des vers de terre, qui sont des oligoquettes, donc oligo, peu de soies sur chaque segment.
Et ceux qui ont des soies comme les poliquettes, c'est parce qu'ils sont en milieu aquatique et qu'il faut nager
Pas forcément. En fait, même si majoritairement les annélides poliquettes vivent dans le milieu marin, il y a à peu près 160 espèces qui vivent dans les milieux d'eau douce. Et il y a à peu près entre 3 et 10 espèces d'espèces qui vivent en milieu terrestre. Alors, milieu terrestre, c'est entre guillemets, parce qu'en fait, c'est dans des tourbes. Donc, en fait, c'est quand même très proche de l'eau.
Ouais, c'est bien humide, quoi.
Ouais, ouais.
Sous-terrestre, on va dire.
Oui, exactement, ouais. Majoritairement.
On va voir fonctionnellement à quoi ça leur sert, hein, ces petites soies. Leur histoire évolutive, alors, quand est-ce qu'ils se sont séparés des vers de terre?
Alors, justement, en fait, du coup, sauf erreur de ma part, le plus ancien fossile qui a été retrouvé, il date du début du Cambrien. Donc, c'est moins 520 millions d'années. Donc, il a été nommé Phragmocetta. En fait, ils sont très probablement apparus bien avant, parce que bon, si on a un premier fossile, c'est que ça donne déjà une idée, mais on ne sait pas quel était l'ancêtre commun des annélides. Et en fait, une hypothèse qui a été historiquement émise par Georges Cuvier, un scientifique français au début du 19e siècle, en fait, il émet qu'il existerait un ancêtre commun entre les annélides et les arthropodes. Le lien, ce serait quoi? Ce serait en fait, par exemple, la segmentation. Les arthropodes, c'est avoir des pattes articulées. Et comme on l'a vu au début, il y a des segments sur les vers annélides.
Oui, par exemple, on n'a pas parlé des mille pattes, mais ce n'est pas des annélides, les mille pattes.
Non,
enfin, c'est les arthropodes.
Pas du tout, exactement. En fait, les annélides vont avoir en fait vraiment des soies sur les segments.
Ce n'est pas des pattes.
Par contre, ça sert à la mobilité ou à l'ancrage. Mm-hmm. Mais ça ne va pas en fait avoir un appendice articulé qui va venir s'emmancher sur le corps. En fait, on appelle ça dans un parapode. En fait, sur l'annelure, sur un segment, il faut imaginer qu'il va y avoir une touffe de poils, 2 touffes de poils par côté. Donc, en gros, 4 touffes de petits poils qui vont dépasser. On appelle ça un faisceau de poils. Et donc, ce faisceau-là, il peut rentrer ou sortir selon les espèces. Hein, on verra tout à l'heure, une grande diversité de formes. Mmh. Et en fait, selon les espèces, soit ça va servir en effet à s'ancrer dans le sédiment, dans un tube, soit des grandes soies qui vont permettre un déploiement du corps et donc de pouvoir se mouvoir et potentiellement nager.
Ah, même plus pratique que des pattes, on dirait.
Exactement. Et pour revenir sur la théorie de l'évolution, en fait, donc ça a duré jusqu'au début des années 2000, hein, cette hypothèse que les annélides et les arthropodes seraient assez proches. Mais en fait, avec l'avènement de la génétique, il a été montré, en utilisant des dizaines de gènes, en allant creuser vraiment très profond dans les cellules et dans le noyau des cellules, en fait, les méta-analyses ont révélé que les annélides polyquêtes étaient en fait relativement proches des mollusques, des némertes et des phoronidiens. Alors, les mollusques, on sait ce que c'est. Les némertes, c'est des vers sans annelure, un peu comme des sangsues, si ce n'est qu'il n'y a pas d'annelure. Ouais. Mm-hmm. Et les phoronidiens, c'est pareil, c'est des vers sans annelure avec un petit panache branchial. On peut les trouver à marée basse dans certaines flaques en bas d'estran. Ça fait un petit panache blanchâtre avec une dizaine de petites volutes. C'est assez joli à voir. Et en fait, qu'est-ce qui regroupe ces classes avec un ancêtre commun, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle une larve trochophore. En fait, l'ancêtre commun aux annélides polyquêtes, aux mollusques, aux némertes, aux phoronidiens, tout ça ont découlé d'un ancêtre commun ayant des larves qui, en forme de boule, avec une touffe de poils apicales et deux rangées équatoriales de soie, c'est une larve planctonique. Et en fait, ils ont tous en commun ce critère d'avoir des larves planctonique avec cet agencement de soie.
Mais de toute façon, on remonte vraiment très très loin. Là. Et bon, c'était une époque où la vie était essentiellement, enfin uniquement sous-marine, enfin aquatique, ouais. C'est ça, oui, de
exactement,
toute façon.
Exactement, exactement.
Donc ils sont restés fidèles au milieu marin, les polyquêtes, dans leur ensemble. Alors, combien est-ce qu'on sait combien il y a de polyquêtes identifiées, en tout cas?
Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on sait combien on en a décrit, mais on ne sait pas combien il y en a. Ouais. Parce qu'en fait, dans le monde, il y a d'annélides, il y en a 19 000 de décrits. 19 000 espèces.
C'est déjà énorme.
Ouais, et en grande majorité, ce sont des annélides polyquêtes. Les annélides polyquêtes représentent 14 000 espèces. Donc ça peut paraître beaucoup, 14 000, surtout si on compare avec, par exemple, je ne sais pas, les nombres d'espèces d'oiseaux ou peut-être des papillons, enfin je ne sais pas.
Oui.
Mais à la fois, en fait, par exemple, des arthropodes ou des mollusques, il y en a 10 fois plus.
Ah bon?
Ouais,
ah
oui, c'est énorme. Et remis dans un contexte global, en fait, c'est peanuts, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons décrit sur Terre 2 millions d'espèces. Donc c'est tous les groupes confondus, hein. Et il y a plusieurs études qui ont essayé d'estimer le nombre d'espèces sur Terre, et donc on aurait décrit pour les études les plus précautionneuses à peu près 50% uniquement de la biodiversité sur Terre.
Pourtant on a bien travaillé, 2 millions c'est pas mal déjà.
Pourtant on a bien travaillé. Alors on connaît très bien le milieu terrestre, et encore on est loin d'avoir tout découvert, mais il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que le milieu marin, il est très difficile d'accès. Donc déjà on a du retard sur le fait d'étudier la biodiversité marine. Sur l'estran, c'est assez facile, mais dès qu'il faut aller en plongée et encore plus profond, par exemple dans les abysses, là, ça coûte extrêmement cher. Il faut mettre des moyens en place qui sont conséquents. Et qui plus est, il y a un deuxième frein à la découverte des espèces, de nouvelles espèces pour la science, c'est l'expertise. C'est le fait d'avoir des forces vives, parce que c'est pas très reconnu de passer sa vie à regarder une seule famille de polyquêtes, malheureusement.
J'imagine.
Parce que la science fait partie aussi, comme la société en général, ça peut être un milieu très compétitif. Les chercheurs sont notés sur, par exemple, leur capacité à publier des études. Et à titre d'exemple, on parle de shelf time. Le shelf time, c'est le temps que passe une bête ou une espèce dans une armoire avant d'être décrite. Il a été estimé que récemment, c'est 7 ans.
Ah donc, là là.
Voilà,
ah
oui. Donc, parce que c'est tellement peu reconnu, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui veulent aller là-dedans. Et du coup, on obtient un petit retard dans le fait de la description de la biodiversité. Sauf qu'elle s'érode. On sait qu'on perd des espèces avant même de les décrire. Oui. À titre d'exemple, il y a tellement peu de gens, entre guillemets, qui étudient ces espèces-là. Et en 2023, c'était 160 espèces qui ont été décrites. Et en 2024,
de polyquêtes.
Ouais. Et en 2024, c'est 108 espèces. Donc ça pourrait être important.
Bon, ça me paraît pas mal, moi.
Et à la fois, c'est pas beaucoup si on estime qu'on n'aurait même pas encore décrit les 50% de la diversité.
Oui, s'il y en a encore 14 000 à décrire, voire plus, c'est sûr qu'il
y en a forcément beaucoup plus.
Et dans le Finistère, on sait combien il y en a des polyquêtes ?
Alors, exactement dans le Finistère, je sais pas. En France, on est à peu près à 2 000 et on peut estimer que dans le Finistère, avec tous les habitats que nous avons, donc vraiment de l'estran, avec même un début de canyon, avec le canyon de l'Empole et encore plus au large, avec par exemple au bout du plateau continental, si on pousse un peu les limites du Finistère, on pourrait estimer facilement à 500 espèces. En fait, les annélides polyquêtes, on en trouve réellement dans tous les habitats de la mer.
Mmh. On va creuser justement leur vie et leur mœurs, mais juste pour savoir comment est-ce qu'on les reconnaît, là c'est le métier de taxonomiste par excellence.
Exactement, c'est comme on a vu au tout début, en fait, on s'arrête très, très vite à un ver. Donc si jamais ça n'a pas vraiment la forme de ver, par exemple, je pense dans la rade de Brest, on peut trouver ce qu'on appelle la souris de mer. En fait, on va avoir une masse un peu poilue, touffue, ovale.
Un genre de limace plutôt.
Voilà, plutôt type limace, sauf que quand on la retourne, on voit que c'est segmenté. Il y a des traits qui barrent le corps. Donc là, ça veut dire qu'on a des annelures et il y a énormément de soie. Donc là, c'est très vite, on a un annélide polyquête. Pour les autres, ceux qui font des tubes, par exemple, des petits tubes blancs qui vont être en croûtant sur de la roche, là, c'est plus compliqué à voir parce qu'on ne voit pas le corps de l'animal. Mais autrement, si c'est une bête qui nage ou qui est sur le sable ou dans le sable, si on creuse un peu, on voit très vite qu'il y a en fait des micro-soies qui sont sur chaque segment.
Donc il faut des anneaux, des soies, et puis
on est
bien. Et après, pour les distinguer par contre les uns des autres, c'est plus subtil, j'imagine.
Beaucoup plus, beaucoup plus. En fait, on va utiliser plusieurs critères morphologiques pour aller plus loin, pour trouver la famille, pour trouver le genre, et ensuite trouver l'espèce. En fait, on utilise ce qu'on appelle des clés dichotomiques. Donc par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a 20 ou 50 segments ? Donc, si on en a 20, hop, on suit la clé. Est-ce qu'il y a présence d'yeux ou pas, etc.
Ouais,
etc.
Ce que j'avais demandé, est-ce qu'il y a des yeux
Voilà, et plus on va loin dans la clé, plus il va falloir regarder des critères très fins. Et notamment, au quotidien, ce que les naturalistes utilisent, ça va être par exemple les soies. Regarder les soies au microscope, leur forme, il y a toute une diversité de formes. Majoritairement, c'est des soies capillaires, un peu comme des cheveux, c'est très fin, c'est pointu au bout. Mais ensuite, il y a des soies en harpon, il y a des soies modifiées, des soies segmentées, des soies avec des capuchons, des soies poilues, des soies en harpon. Il y a facilement une trentaine, voire cinquantaine de types de soies différentes.
Ces soies, elles sont pas, il n'y a pas de muscles qui les agitent, non ? Enfin, comment est-ce qu'ils...
Si. En fait, du coup, dans le faisceau de soie, le parapode dispose d'une certaine musculature. Alors, pour tenir le parapode, donc le parapode, c'est justement pod, c'est une sorte de patte.
Oui, bah oui.
En fait, il y a non seulement une musculature, mais pour tenir l'ensemble, il y a ce qu'on appelle des acicules. Donc, c'est des soies beaucoup plus robustes qui, elles, restent à l'intérieur. C'est ce qui est un peu comme un squelette du parapode. Et en fait, grâce à une certaine musculature, si on prend par exemple les annélides mobiles qui sont sur du sable, qui vont des prédateurs par exemple, qui sont obligés de bouger, la gravette notamment, les nephtys qu'on trouve dans le sable, et ben elles, en fait, elles vont par décontraction-contraction de chaque segment, ça va faire un peu comme les mille pattes justement, ça va bouger. En fait, c'est similaire un peu à mille pattes / serpent, c'est qu'en fait, ça va faire des sortes d'ondulations tout en utilisant chacun des parapodes pour avancer. Ça fait un mix, en fait.
Et alors, ces polyquêtes, ils sont partout, donc.
Ouais.
Mais est-ce qu'ils ont toujours besoin d'un sol, enfin, de s'enfouir dans le sol, comme des vers de terre, justement, ou pas ?
Et non, pas du tout. En fait, donc, comme j'ai dit tout début, il y a quelques espèces en milieu terrestre, dans les tourbes. Il y en a d'autres qu'on va trouver dans des eaux saumâtres, notamment, par exemple, les estuaires, les marais salants, et d'autres en milieu marin. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un socle. En fait, on peut les trouver partout. Donc, il y a des espèces qu'on va dire interstitielles. Ça veut dire qu'elles sont entre les grains des sédiments, entre les grains de sable, entre des cailloux. D'autres, c'est des endogées. Donc, par exemple, l'arénicole sur les plages qui fait les tortillons, ça, c'est une espèce endogée parce qu'elle est enfouie dans le sédiment. Elle va faire son tube dedans. Il y a des espèces épigées, comme les espèces prédatrices qui sont sur le sédiment ou sur les cailloux. Qui vont essayer de prédater des petits crustacés, etc. Il y a des espèces qui vont être fixées, comme les serpulidés, qui peuvent faire des sortes de petits récifs, ça fait des petits tubes blancs qui sont collés
un peu dur,
à la roche.
Exactement. C'est du calcaire.
C'est du calcaire. C'est comme les coquillages.
Ah, ouais. C'est ça. D'accord. Et ils sont donc certains sont prédateurs, d'autres pas. J'imagine. Enfin, ils ont des modes de vie extrêmement différents. C'est difficile de tout résumer.
Exactement. En fait, il y a même s'il y a peu entre guillemets d'espèces décrites dans le monde, en fait, il y a la diversité est extrêmement large. Donc là, comme on vient de le voir, ils colonisent quasiment tous les habitats de la mer. Sachant que certaines espèces sont aussi nageuses, elles sont planctoniques. Donc vraiment du plancton jusque dans le sédiment, en passant même par les sources hydrothermales. Donc de toutes les profondeurs, de toute la colonne d'eau et de tous les sédiments, ils sont présents. Donc on imagine bien qu'il en découle toute une diversité, par exemple, d'alimentation.
Mmh, bah oui.
Donc l'alimentation, on va distinguer par exemple des déposivores. Les déposivores, c'est toutes ces espèces qui vont chercher leur nourriture, la matière organique à la surface de sédiments à l'aide de filaments et ça va ramener cette nourriture-là captée à la bouche. Alors on va distinguer les déposivores sélectifs des non-sélectifs, ceux qui vont sélectionner donc leur nourriture, les molécules, et ceux qui ne vont pas sélectionner.
Ceux qui recyclent cela.
C'est ça, par exemple. Ensuite, il va y avoir aussi des prédateurs. Donc tout simplement, ils ont des mâchoires, ils prédatent des crustacés, voire même des poissons. Peut-être que certains auditeurs ont déjà vu la vidéo du Bobbit Worm. C'est un grand tenicidé qui peut faire jusqu'à 3 mètres, qui est capable de manger des
poissons. C'est un polychète.
C'est
le ver de dune, quoi, un peu, non?
Quasiment. Un peu plus petit, un bébé.
Mais quand même.
Mais alors, il ne faut pas avoir peur, c'est que la majorité des espèces font en dessous de 10 cm. Ça, c'est assez exceptionnel d'avoir des tailles extravagantes. Mais voilà, certains prédateurs peuvent quand même consommer carrément même des poissons. On va aussi trouver, par exemple, des filtreurs. Donc les filtreurs, soit ils vont créer eux-mêmes un courant d'eau dans leur tube pour absorber les molécules qui sont dans l'eau, soit il va y avoir les filtreurs passifs qui ont un panache branchial, un peu comme une grande couronne. On imagine, par exemple, un peu comme une fleur, mais avec des pétales vraiment très dilatés, très fins. Et donc ça, dans le courant, ça va capter en fait les molécules grâce à des petits cils, des petits fibrilles qui vont capter les molécules. Et enfin, le dernier, pas des moindres, c'est le moins connu en fait, on connaît rien dessus, ce sont les parasites. Et notamment, ce qui est assez drôle, c'est que certains polychètes, et notamment dans la famille des Oenonidés, ils sont spécialisés dans le parasitisme d'autres polychètes.
Waouh !
Et ça, en fait, on connaît quasi rien sur leur mode de vie. On ne sait pas comment ils se reproduisent.
Ah
on
ne
sait pas comment ils rentrent dans les bêtes.
On les a quand même repérés, donc.
On les a repérés, mais c'est extrêmement rare. À titre d'exemple, une espèce, Labrorostratus parasiticus, qui a été décrite par le baron de Saint-Joseph dans le golfe normanno-breton, au large de Saint-Malo. Il y a eu une observation, donc, il me semble que c'est au début du XXe siècle. Une deuxième, encore un peu après, vers 1920, quelque chose comme ça. Et ensuite, plus rien.
Ah.
Et là, on l'a redécouverte l'année dernière grâce aux personnes d'Estran 22 qui m'ont amené en fait une bête pour l'identifier. Et en fait, à l'intérieur, il y avait justement un Labrorostratus. Ça faisait 107 ans que ça n'avait pas été observé.
Ah oui, donc on ne sait pas comment il rentre.
On ne connaît rien.
Bon,
c'est plein d'inconnus.
C'est un peu frustrant.
C'est frustrant, mais intéressant. C'est stimulant.
Oui, bien sûr, c'est un défi. Les modes de reproduction aussi sont différents, c'est ça ? Enfin, ils sont très spéciaux parfois.
En fait, du coup, on a vu que, encore une fois, diversité d'habitat, diversité d'alimentation, diversité de mobilité. Certaines, en fait, on dit qu'il y a deux grands groupes dans les annélides polychètes, les polychètes errantes et les polychètes sédentaires. Ça permet déjà de faire deux grands groupes. Mais du coup, qui dit aussi une aussi grande diversité, dit une diversité de modes de reproduction. À titre d'exemple, ils sont capables de faire les deux types de reproduction, asexuée et sexuée. L'asexuée, ça va être la création de clones, donc soit par exemple par segmentation. Tout seul. Là, il y a plusieurs solutions. Donc soit c'est un simple découpage. Donc par exemple, un prédateur mange et ça recrée un clone et il ne mange pas tout. Et du coup, il y a des petits bouts comme ça. Ou une simple segmentation, il y a le polychète se divise en deux et du coup, ça donne deux polychètes. Il y a une autre, ça va être une segmentation en partie postérieure. Et là, c'est une famille assez particulière. C'est beaucoup fait, entre guillemets, chez les Psyllidés. Donc, c'est des tout petits polychètes. En gros, il faut imaginer un peu comme si il y avait des polychètes à la queue leu-leu. Donc, il y a l'adulte et relié par la bouche à l'anus de l'adulte, il y a le juvénile. derrière ce juvénile, il y a un autre juvénile, et ainsi de suite. Et ils sont tous reliés, en fait, par l'intestin les uns aux autres, ce qui fait que l'adulte mange et la nourriture passe au gré des petits.
Formidable.
Formidable. D'autres sont capables de faire du bourgeonnement. Donc, par exemple, ça va être sur le dos.
Oui.
Dans le dos, il y a des cellules qui vont se diviser. Ça va créer des jeunes, comme si ça faisait des pustules dans le dos de l'animal. Et ils vont se développer, parce qu'ils sont reliés à l'intestin des parents. Et du coup, ensuite, ils vont être relâchés.
Mais ça, c'est asexué. Ça reste le mode clonal.
C'est
quoi.
Purement voilà. Des clones. Ouais. Ensuite, il y a la reproduction sexuée. Donc là, ça va faire intervenir donc, un brassage génétique avec des gamètes mâles, des gamètes femelles.
Et
donc,
c'est
là,
mieux, paraît-il.
Exactement. Pour s'adapter,
pour
en
la
tout
diversité,
cas.
Ouais.
Voilà,
ouais.
C'est très important. Et là, en fait, il y en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, certaines espèces sont capables, elles vont se transformer. Littéralement, par exemple, je pense à certains néréidés qu'on peut trouver ici, sur l'estran en Bretagne. En fait, ce sont normalement des prédateurs sous les cailloux, voilà, ils mangent, etc. Mais en période de reproduction, ils vont arrêter de manger. Il y a tout l'intérieur du corps qui va se transformer. En fait, la bouche va s'obstruer, ils vont perdre leur mâchoire. L'intestin va se vider, il va même disparaître. Les soies vont être modifiées. Leurs soies assez courtes qui leur servaient pour la mobilité vont devenir extrêmement longues. Elles peuvent même faire la taille du corps en longueur. Et ça, principalement dans la partie médiane. Et l'intérieur de l'animal va se transformer en fait uniquement en gamètes. En gros, l'animal se transforme en un sac de gamètes. Et à un moment donné, par des signaux environnementaux, tous vont se mettre à nager avant la nuit. Alors, on pense que c'est lié à un cycle lunaire. Tous vont se mettre à nager et ils vont exploser dans la colonne d'eau. Pourquoi tous en même temps? Parce qu'en fait, ils vont augmenter la probabilité que deux gamètes se rencontrent.
Alors, oui. Et l'individu mère survit à tout ça ou...
Non, ouais, là, il y a mort. Mais ouais, par contre, certains sont capables, par exemple, ce sera que la moitié. Et ils vont perdre qu'une partie de leur corps, mais ça ne pose pas de problème vu que ça repousse.
Oui.
Donc voilà, d'année en année, ils peuvent perdre des parties de leur corps.
Mais alors, les espèces, c'est soit reproduction sexuée, soit reproduction par clonage. Ils ne peuvent pas faire les deux
si.
Quand même.
Ah oui, il y a les deux.
Ils sont trop forts.
Et
ils sont incroyables. Hein, c'est vraiment des monstres d'adaptation.
Exactement. et donc d'autres sont capables en fait vont faire des œufs, des sortes d'œufs ou des capsules gélatineuses. Donc soit les œufs peuvent être gardés par exemple dans des tubes ou ces capsules gélatineuses, peut-être que certains auditeurs en ont déjà vu sur l'estran, ça fait une petite masse, alors ça colle pas mais c'est gluant, c'est verdâtre, c'est accroché à un bout de caillou ou à un coquillage par un filament transparent.
Et c'est gros comment en gros?
Ça fait aller 1 ou 2 centimètres de diamètre. Et en fait, à l'intérieur, si on regarde ça sous la loupe binoculaire ou au microscope, on verra plein de tout petits polyquettes. Ouais. Alors du coup, il y a aussi... donc il y a eu des études qui ont essayé de s'intéresser, de comprendre tout ça. Et pourquoi je ne les cite pas toutes? Parce que par exemple, pour donner un petit exemple, c'est l'étude d'Herbert Wilson en 2011. Il a essayé de faire une synthèse des modes de reproduction basés sur le type de maturation des gamètes et le développement larvaire. Et il en a conclu qu'il y en avait 18. Donc ce serait un peu long tout citer, mais voilà, c'est quand même très 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 diversifié. Et du coup, qui dit une forte diversité comme cela, une diversité de taille aussi, etc., il y a aussi une grande diversité dans la respiration, leur capacité à respirer. Certains vont disposer de branchies. Donc par exemple, un peu comme des poissons, sauf que les branchies sont à nu sur le corps, l'eau va passer au travers de ces branchies-là, ils vont pouvoir respirer. D'autres, ça va être tout simplement en mangeant. En fait, en mangeant, ils vont avaler de l'eau, ça va passer à l'intérieur, et en fait, au travers la barrière intestinale, il va y avoir l'échange de gaz, le CO2 sort, l'oxygène rentre.
Ah oui.
Et les derniers, j'ai dit que quand même majoritairement les espèces étaient de petite taille,
oui.
Et en effet, il y en a des très 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 petits, inférieurs au millimètre. Et ben eux, ils n'ont pas besoin d'un pas 10. Pourquoi s'alourdir? En fait, ils sont tellement petits que l'oxygène passe au travers de leur corps.
Oui. Directement par la peau, entre
guillemets.
Exactement. Ah ouais, non mais vraiment, c'est... Alors, il nous reste juste 2 minutes, mais je pense qu'il faut vraiment faire comprendre aussi aux gens pourquoi est-ce que c'est important de les étudier, pourquoi est-ce qu'à l'IFREMER, il y a un spécialiste, enfin peut-être d'autres d'ailleurs, des polyquettes comme Gabin Droual.
Alors, pourquoi les étudier? Il y a plein de choses, mais en fait, je vais rester... je ne vais pas les citer forcément dans le bon ordre, mais il y a déjà un aspect très important, c'est leur beauté. En fait...
Oui, ça...
Si, exactement. Ouais. Si on les met, en fait, dans dans un saladier. Si on va sur l'estran, on les met dans un saladier, ce n'est rien d'autre qu'un bol de verre. C'est quand même un peu dégoûtant. Et en fait, c'est comme tout, c'est quand on les regarde un peu précisément, là, on se rend compte, ils vont révéler leur véritable beauté. Pourquoi ? Parce que déjà, certaines espèces vivantes, toutes petites, elles sont extrêmement colorées. Si on les regarde vraiment de près, il y a plein de couleurs. Ensuite, j'en ai parlé, il y a la diversité des soies. Donc là, c'est pareil, c'est magnifique à voir au microscope. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect de l'observation et de la contemplation de la nature qui nous amène forcément à l'acquisition d'une connaissance empirique. Et ça, on l'a un peu perdu. On pense que beaucoup, la connaissance même s'obtient dans des laboratoires, alors que pas vraiment. La connaissance, c'est d'abord aussi dehors. Et d'ailleurs, si on remarque bien, on va très vite, si on se fait les yeux, on va très vite constater qu'il y a certaines espèces qui sont présentes dans certains habitats et d'autres dans d'autres habitats. Par exemple, il y a des espèces présentes dans le port de Brest, donc c'est soumis à certaines pollutions, et d'autres présentes dans des zones à faible impact humain. Et bien ça, en partant de ce principe-là, là on a déjà les prémices de l'étude concernant les indicateurs du bon état écologique des habitats, juste par l'observation. Et donc après, ça nécessite bien évidemment de trouver des études un peu plus poussées, ou de les faire soi-même. Mais en gros, en regardant certaines espèces, on peut déjà trouver qu'elles sont indicatrices, soit de pollution, ou à l'inverse, d'un bon état écologique. Et donc, ça va rentrer dans des grandes listes de noms scientifiques, de taxons, qui sont trouvés ou pas dans certains habitats, et qui vont donc pouvoir permettre au calcul du bon état écologique de certains habitats.
Alors, je ne sais pas, je n'ose pas demander, parce qu'en plus on arrive à la fin de l'émission, si les poliquettes vont bien ou pas bien, j'imagine que ça dépend.
C'est compliqué à dire. En fait, on est toujours en train de découvrir des nouvelles espèces constamment, donc en fait c'est difficile. En fait, en milieu marin, on a tellement de retard comparé au milieu terrestre et peu de références que c'est compliqué de dire qu'il y a une forte érosion ou pas. Il y en a forcément, il y a plein d'espèces qui disparaissent avant même qu'on les découvre. Après, en fait, ce qu'on regarde, c'est surtout les trajectoires, et en prenant pas en compte que les poliquettes, mais en regardant dans la globalité les mollusques, les arthropodes, les annélides, les échinodermes, etc. Et on regarde en fait, pas forcément, parce que le nombre d'espèces ne cesse d'augmenter avec la tropicalisation, le changement climatique amène beaucoup d'espèces chez nous, chez nous. Et il est très difficile de se dire qu'une espèce a disparu de nos eaux. Il faut plusieurs années d'absence avant de vraiment pouvoir certifier que oui, cette espèce-là a disparu. Mais on s'attend bien évidemment, en termes de distribution, au moins que certaines espèces en limite sud des distributions vont en effet avoir tendance à disparaître.
Bah merci beaucoup Gavin Droual, il est bien possible qu'on reparle encore des poliquettes prochainement sur cette antenne.
Pas de soucis.
Car on voit que c'est passionnant.